on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h04, Tim Dugas, c'est parti, vous le savez, c'est le moment, ça y est. Nous allons parler, débattre football, une nouvelle semaine où nous allons nous régaler avec ce soir un Jean-Louis Tour très 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 énervé. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Jean-Louis? Ça va?
Ça dépend de ce que vous direz avec Manu, on verra si je suis énervé ou pas, tout va bien sinon.
Oui, mais c'est quoi, c'est ce régime qui te porte un peu sur le système.
Le régime est formidable.
Oui, mais ça...
Quand
oui,
on va te revoir, Dugas, quand tu vas te déconfiner enfin, tu vas voir, ça va être impressionnant.
D'ailleurs, il est où, Dugas, là?
Il est confiné.
Où?
Ça fait un an qu'il est confiné.
Salut Manu, comment ça va, mon poulet?
Il est où, là, parce que on ne voit plus.
Je vais pas revenir pour tout te dire.
D'accord.
On se fera un FaceTime, hein.
Tu nous fais une Cavani, quoi.
Je fais une
Cavani. Sauf qu'il est à l'antenne jusqu'au bout, quand même. Pendant 3 semaines encore, donc voilà, pour Tim Dugas.
C'est ça, exactement.
Non, mais de toute façon, Manu, vous reverrez à la soirée des 98. Tout le monde vient à chaque fois.
Avec Didier, on sera avec Didier, on sera avec la soirée.
Ah, bien sûr. Une soirée masquée, comme ça personne ne se reconnaîtra.
Pourquoi pas?
Non, Manu, tu dois avoir des beaux déguisements en plus, toi, comme ça, là, non?
Justement.
Tu dois avoir une collection.
Avec des cartes et tout.
Sans aucune transition, vous savez que nous referons l'Euro 96 à 19h.
Évidemment. Quel rapport.
Aucun. Ben voilà. Une formidable grande compétition.
Exactement, humaine. Une aventure humaine,
exactement. On en parlera avec Eric Dimeco. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous à 18h. Il sera là tout à l'heure à 19h, puisqu'il était dans le groupe. Mickaël Madar sera également notre invité.
Le patron.
Mais de quoi?
Le patron.
Tu sais comment nous appeler, Mickey et moi, à Monaco?
Non.
Véronique et Davina.
Pour les cheveux longs, c'est magnifique.
Ah ouais, magnifique.
Donc il sera avec nous tout à l'heure. On reviendra sur cette compétition qui a été la bonne préparation avant la Coupe du Monde 98.
Ah oui, c'est de là que tout part.
Bien sûr.
Ah bah oui.
Évidemment, il y a plein de choses à raconter. Eric Dimeco qui perd sa place pendant la compétition. Dugas qui marque.
Sincèrement, Eric, il était cramé déjà. Il avançait plus. Il faisait de la musique avec sa guitare. Il faisait que de la musique.
Avec sa basse.
C'est qui ce monsieur? Je savais même pas qu'il jouait au départ. C'est qui ce monsieur qui est là?
Les cheveux longs avec
la basse.
C'est vrai qu'il a acheté de la laine.
Mais non, j'ai cru que c'était l'adjoint d'Henri Émile au départ, moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait?
Il sera avec nous tout à l'heure à 19h. Et puis l'actu, à 18h30, Olivier Giroud continue de marquer. Continue-t-il de vous étonner? 32-16 pour en débattre tout à l'heure. Effectivement, on reviendra donc sur son but qui a donné la victoire à Chelsea. Mais on va donc commencer par le PSG. Reprise de l'entraînement aujourd'hui, donc. La plupart des joueurs sont là, comme Neymar, comme Mbappé. Ceux qui sont d'accord pour prolonger de 2 mois et finir la Ligue des Champions étaient là aussi, comme Thiago Silva. En revanche, pas d'Edinson Cavani.
Bonjour, je suis Cavani.
Cavani qui a été exceptionnel, qui mérite de sa place, qui est un partenaire exceptionnel. Il commence à être dépité.
Après beaucoup de temps, tu commences à sentir des choses particulières.
J'aime son attitude, j'aime sa générosité, mais je pense qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur.
Je sais que le football, c'est football.
Toi, je pense qu'il est bien prêté.
T'es le porte-parole de Cavani.
Non, je ne suis pas le porte-parole.
Est-ce que Cavani, une fois, il s'est plaint?
Mais justement, tu vas voir que là,
il ne se plaindra à sa place.
Sincèrement, j'aimerais gagner ici.
Légalisation incroyable! Coup franc sublime! Delinson Cavani dans le temps additionnel.
Que ça peut même
dire que ce soit la merde au PSG, que tu vas
être une histoire. Non, c'est justement vous qui pensez qu'il n'y aura pas le bordel.
Alors, donc, Cavani, en accord avec le club, hein, il n'était pas là ce matin à l'entraînement parce qu'on a appris ce week-end qu'il ne voulait pas prolonger son contrat de 2 mois. Le PSG ne veut pas le prolonger au-delà de ces 2 mois, mais souhaitait quand même qu'il finisse la saison et la Ligue des Champions au mois d'août. Il ne veut pas, l'histoire est donc terminée avec le PSG après 7 ans de collaboration. Faut-il en vouloir à Cavani pour ce choix précisément? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Mohamed Bouassi nous rejoint, bonsoir Mohamed.
Salut Dugas, salut Manu,
salut Mohamed.
Alors avant de débattre quand même les infos, parce que ce départ suscite des tensions en interne.
Oui, beaucoup de tensions à tous les étages du club, on va dire. Dugas, ça commence par certains joueurs qui ne comprennent pas ce choix et qui louent plutôt la fidélité et le choix de Thiago Silva pas de rester, de prolonger son contrat pour finir cette belle aventure de la Champions League et pourquoi pas rêver de la gagner. Ça agace aussi Thomas Tuchel, même s'il l'a pas beaucoup utilisé cette saison, il sait qu'il perd un élément offensif, mais surtout ça agace la direction et les membres du staff du PSG qui expliquent que la fin aurait été meilleure, plus belle avec les applaudissements des supporters, de disputer ce rêve de Champions League, de gagner pourquoi pas la Champions League en 3 matchs, ce qui n'a jamais été le cas et possible depuis qu'il est arrivé au PSG. On ne comprend pas, on explique que ce sont des arguments fallacieux, qu'il aurait pu finir cette compétition.
C'est quoi les arguments, Mohamed? Pourquoi il signe pas?
En gros, dans l'entourage du PSG, on dit qu'il y a eu une volte-face. On comprend pas trop cette volte-face. D'ailleurs, cette volte-face, elle a eu lieu alors que Cavani, l'entourage explique qu'il y avait plutôt de l'optimisme pour prolonger son contrat. Il y a des personnes qui disent que c'est un argument purement de principe parce qu'il n'a pas été satisfait de recevoir une proposition de prolongation de contrat, notamment parce qu'il voulait encore rester au PSG une voire deux saisons minimum. Le PSG n'avait pas envie de lui donner cette proposition de prolongation de contrat. Et l'argument, c'est de dire qu'il aurait pu signer libre à Atlético de Madrid, à Manchester United, dans quelques semaines, juste après la Champions League, alors qu'il ne va pas la jouer.
Son explication, c'est quoi exactement?
On ne la connaît pas. Il y a des gens dans l'environnement du PSG qui disent que c'est plus une question de principe. Il n'avait pas envie de prolonger. Parce qu'il y a des gens
Aucune allusion pour l'instant, il ne s'est pas exprimé sur le sujet.
D'accord. Et on explique aussi que l'argument, en tout cas dans le staff, on dit que l'argument de la blessure, au cas où s'il se blesse avec le PSG dans un des 3 matchs ou ce quart de finale, est un argument totalement fallacieux parce qu'il n'allait pas avoir de proposition de prolongation de contrat et qu'il aurait pu s'engager avec le PSG, mettre une assurance sur une blessure. S'il a une blessure, on lui prolonge son contrat automatiquement. C'est un peu bidon et ça on regrette la forme, surtout au PSG.
Alors, Duga, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut en vouloir à Cavani?
Oui.
Pourquoi?
Oui. Ben parce que je trouve que c'est pas bien. Je pense qu'il a jamais été aussi près de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ça fait des années. Moi, j'ai pas été le seul. Hein, mais on a été beaucoup à le défendre. Parce que je crois qu'il le méritait. On a loué son attitude, on a loué son comportement, son investissement, son amour pour le club. Le club décide de ne pas le prolonger. C'est le choix du club. Après, c'est le choix du club. Il y a une aventure quand même humaine avec ses coéquipiers, avec ses partenaires. Ils ont réalisé face à Dortmund quelque chose de super. Ils ont jamais été, je vais pas dire aussi près de la gagner, mais on sent qu'il y a une vraie bonne dynamique dans cette équipe. L'état d'esprit a l'air bon, a l'air bien, même si c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué. Je peux comprendre sa frustration, mais je trouve que c'est assez inélégant venant de lui. Sincèrement, ça me surprend, parce que c'est un garçon qui a toujours a toujours su faire preuve de beaucoup d'humanité, de respect du collectif, de l'institution. Voilà, je trouve ça nul pour lui, je trouve ça nul pour le club, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc il y aura pas de belle fin d'histoire. Je trouve ça nul des deux côtés, et je comprends pas son attitude. Je comprends pas de vouloir partir comme ça par la petite porte. Je trouve que c'est assez moche. Voilà, moi je l'en veux un petit peu. Oui,
Manu, qu'est-ce que t'en penses?
Ah ben, pour une fois, je suis complètement d'accord avec Dug. Je rajouterais que quand on voit tous les couleuvres qu'il a dû avaler hein, ces dernières années, je crois que ça fait 7 ans qu'il est au club.
7 ans, il est arrivé en 2013.
Moi, j'adore. On est tous là unanimes pour dire qu'on adore le garçon, le joueur, sa mentalité, son abnégation sur le terrain, puis son rapport aussi avec les supporters. Mais moi, je m'attendais à un geste de classe de sa part, comme il l'a toujours fait durant cette année. Quoi. Il a eu le problème avec Ibrahimovic, il s'est tu, il a joué sur le côté, il a rien dit. Après, il s'est passé le penalty gate avec Neymar, il s'est tu, il a rien dit. Il a encaissé beaucoup de choses avec beaucoup de classe, avec beaucoup de hauteur et beaucoup de recul également. Et je pensais vraiment que là, on parle de quoi? C'est l'histoire de 5 matchs.
Oui, la possibilité, probablement 2 finales de coupe et 3 matchs de Ligue des Champions.
Ouais, voilà. Donc
au maximum, ça aurait pu durer 2 matchs.
Hein. Donc 3 titres hypothétiques, ouais, et notamment la Champions League, le Graal. Donc je pensais vraiment que Cavani allait rester sur sa ligne de conduite, c'est-à-dire quelqu'un avec beaucoup de classe. Et moi, je pars toujours du principe que c'est pas parce que quelqu'un agit mal avec toi qu'il faut le faire aussi en retour. Tu peux aussi t'élever et démontrer à la personne qui agit mal avec toi que moi, je suis pas comme toi, tu vois. et sortir aussi avec beaucoup de classe.
J'ai l'impression qu'il va tout gâcher. Moi, j'ai l'impression qu'il va tout gâcher, tout l'amour que les supporters lui donnaient.
Je pense que c'est dû quand même, parce qu'il y en a quand même énorme.
Mais ça va quand même, il y en a certains qui vont l'avoir en travers.
Je crois que sur les réseaux, c'est assez impressionnant.
Alors que ça aurait pu être la vedette absolue, son nom aurait été crié et chanté encore pendant des mois et peut-être des années. Il aurait marqué l'histoire du club et il le fera toujours, bien sûr. Mais là, ça entache fortement son truc, ça gâche la fin quand même.
Je peux comprendre qu'il soit vexé, mais en même temps, ça c'est un cas supplémentaire qui montre que le PSG a beaucoup de mal dans la gestion de certains dossiers, quoi.
Oui. Mais alors, juste parce que Dugas, t'arrêtais pas de dire que j'étais énervé, etc. J'étais énervé parce que juste, je suis énervé contre ceux qui pensent le contraire de vous, ceux qui défendent Cavani, ceux qui disent mais attendez, vous avez vu tout ce que le club lui a fait depuis des mois et des mois. C'est bien normal qu'il leur fasse aucun cadeau.
Jean-Louis, au début, moi, il y a quelques jours, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit il a raison. Ouais. Et avec le recul, je me suis dit quand même Cavani, si ça avait été un autre joueur du PSG, je vais pas les citer, mais je pense que les gens vont reconnaître mes propos. Là, on parle de Cavani, un mec classe, quoi, droit dans ses bottes, quoi. Tu vois, je m'attendais pas à ça de lui.
On va donner la parole à Romain, qui est supporter du PSG, qui nous rejoint au 32-16. Salut, Romain.
Oui, bonjour.
Bonsoir, Romain. Bienvenue.
Écoutez, merci de me faire passer.
T'en veux à Cavani, toi, ou pas ?
D'accord, en fait.
Alors, vas-y, explique-nous.
Alors, j'ai quelques points. En fait, je voudrais dépassionner un peu le sujet. C'est marrant. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tout est assez manichéen ces temps-ci. Tout ça, c'est assez extrême. Alors, le premier point, en fait, c'est déjà, on est dans une situation un peu extraordinaire et je trouve qu'on l'oublie un peu. À savoir qu'on est dans une pandémie. Cavani, il se barre pas deux mois avant la fin de la saison. Il se barre au mois de juin et c'est pas sa faute si on fait jouer des matchs en août. Et on n'a pas arrêté de critiquer la France avec sa gestion un peu bizarre de la fin du championnat, mais quelque part on pourrait critiquer l'UEFA parce que cette situation elle s'oppose aussi avec Timo Werner en Allemagne et 2-3 autres.
Ah, c'est différent, c'est complètement différent.
Oui, mais bon, bref, il y a des mecs qui se trouvent entre guillemets avec deux obligations potentielles. Oui.
Moi je suis pas d'accord, Romain, je te laisse terminer, mais je suis pas d'accord. On va te laisser terminer, hein, mais on n'est pas d'accord sur tout, mais vas-y.
Bon. C'est l'avantage du débat. Mais la deuxième chose la plus importante à mon sens, c'est que, alors moi je suis pas ancien professionnel de foot, donc je dis ça avec toute humilité, mais je vous écoute depuis pas mal d'années, et donc j'ai cru comprendre quelques deux trois trucs sur le foot, et notamment que ça prend du temps de s'adapter à une équipe, et notamment une nouvelle équipe. Et c'est encore plus vrai à mon sens pour un type comme Cavani qui a un jeu assez particulier. On a vu qu'il a mis du temps à s'adapter au jeu du PSG. C'est pas un mec qui prend la barre et qui dribble tout le monde. Il faut se coordonner sur les appels, machin, tout ça. Et j'ajoute que c'est un type qui a 33 ans, je crois. Donc, oui. Il est en fin de carrière. Et donc, moi, si j'étais à sa place, hein, pour être très concret, je pense que j'invite tout le monde à se mettre à sa place en disant si j'étais un employé, en me disant voilà, j'ai 2 ans à tirer, est-ce que je voudrais pas essayer de réussir mon dernier pari? Voilà. Et il y a une chance, en fait, qu'en perdant ces 2 mois de préparation avec mon nouveau club, eh ben, je vais pas créer ces automatismes. J'arrive en septembre, et puis j'arrive dans une équipe qui tourne, et puis je suis en galère. Le dernier point le plus important, c'est que j'entends, de vous aussi, et puis c'est pas une critique, mais de dire, ouais, c'est pas bien, l'histoire, la passion du club, machin, tout ça. Et puis là, il a l'occasion de faire une belle histoire. Moi, j'ai sous les yeux, là, entre le moment où j'étais pris au Standard et maintenant, j'étais sur Wikipédia, enfin, sur Google. Il a été 39% du temps absent cette saison. Alors, il était un peu blessé, d'accord, mais enfin, grosso modo, il a joué 28% du temps potentiel cette année. Moi, je pense qu'on se rappelle tous de matchs où il rentre à la 90e minute.
Oui.
Donc, moi, je parle pas de vengeance.
Rappelle qu'il était titulaire contre Dortmund au retour aussi, quand même. Mais attends, Romain, est-ce qu'on peut.
Laissez-moi finir.
Non, mais t'as abordé pas mal de points. Ouais.
Rapidement, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que on suppose qu'il peut finir l'aventure et qu'il va être titulaire. Moi, je vous pose la question. Si vous êtes Cavani, est-ce que vous restez pendant 2 mois sans la promesse de jouer ces matchs? Si Tuchel lui dit, écoute, moi, je suis pas sûr que je te fasse jouer, et que tu passes 2 mois à tirer le banc et que tu rentres à 5 minutes en demi-finale si tu passes l'écart, est-ce que tu l'as pas mauvaise? Et donc, ce faisant, quand tu penses à ces facteurs-là, est-ce que tu te dis pas, écoute, je pars ailleurs?
Alors, Romain, t'as abordé pas mal de trucs, donc on peut répondre point par point. Si je peux me permettre juste de commencer, parce que tu dis il faut dépassionner le débat sur Cavani. À mon avis, c'est bien là le problème, c'est que le débat sur Cavani n'est pas dépassionné parce que c'est justement la passion qui fait qu'il a ce rapport-là aux supporters notamment et au club du PSG. Pourquoi le Parc des Princes chante Edinson Cavani pendant une mi-temps entière quand il est remplaçant et siffle Neymar? C'est parce que le débat est passionné. Et donc justement, pourquoi on a ce débat aujourd'hui? C'est parce que Cavani entraîne toute cette passion. Donc déjà, c'est le premier truc.
Oui,
ensuite, tu dis la situation est extraordinaire, etc. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a ce débat aujourd'hui, parce que selon moi, la saison, on peut pas dire, même si contractuellement sa saison se finit au 30 juin, la vraie fin de saison, c'est fin août. Et on sait que derrière, dans son nouveau club, il aura quand même encore un mois et demi avant le début de la nouvelle saison, et il aura le temps de s'intégrer comme tu l'as redouté pour lui tout à l'heure. Thiago Silva, par exemple, il va prolonger de 2 mois, alors que lui aussi veut un nouveau challenge, lui aussi a des risques de blessure,
et etc.
Et en plus, il a 2 ans de plus. Donc voilà. Après, l'histoire d'être titulaire, je laisse peut-être les sportifs de haut niveau, mais t'es jamais sûr d'être titulaire à 100%, et ça t'empêche pas d'essayer de relever des challenges.
Non, mais surtout, en ces temps, j'imagine que même s'il a pas été copain avec tous ses coéquipiers, il y a eu un rapport humain assez fort quand même avec le club, un partage avec ses dirigeants, enfin, avec ses supporters, il y a eu quelque chose quand même avec ce club. Tu sais, ça me rappelle, moi, quand je me suis blessé en 98 à la Coupe du Monde, où je me blesse au deuxième match, et il y a quand même, 1% ou 2% de chance que je puisse rejouer d'ici la fin de la Coupe du Monde, et Mejaki, il me vient poser la question et il me dit est-ce que tu veux rester ou tu veux rentrer à Marseille te soigner et préparer la saison qui suit et qui vient. Je lui dis mais il en est hors de question, je savais pas qu'on allait être champion du monde, bien évidemment. Oui. C'était au deuxième match, mais je dis non, je reste avec mes copains, je reste avec
peu
eux,
je
veux vivre l'aventure, peut-être que je rejouerai pas du tout, peut-être que je serai en tribune, j'en sais rien, mais à aucun moment je n'ai pensé quitter cette aventure, la Ligue des Champions, ce qui va se passer, enfin
moi, c'est vrai que c'est
bizarre parce qu'il y a eu ce Covid, mais ça reste quand même ces playoffs et tout, ça va être passionnant à jouer. Non, il y a quelque chose de kiffant quand même.
Il a un quart de finale de Ligue des Champions sous le nez, quoi. C'est quand même pas rien sportivement.
5 matchs dans l'absolu, enfin pour l'instant 3.
Ben oui, je suis d'accord. Sûr.
Donc c'est pas non plus énorme.
Et quand on parle de forme, ça arrive aussi dans une séquence où le PSG perd des joueurs, perd Kouassi, perd Aouchich. Et l'autre élément, on va dire, la goutte d'eau aussi qui a fait déborder le vase, c'est l'histoire de Meunier qui va s'engager avec le Borussia Dortmund, qui a joué le match aller-retour face au Borussia Dortmund, alors qu'il s'était quasiment mis d'accord avec le Borussia déjà. Lui aussi ne va pas participer à la Champions League au mois d'août avec le PSG. Là, ça commence à faire beaucoup pour la direction parisienne qui se dit, à un moment, ces joueurs-là pourraient rendre aussi un petit peu au PSG dans certains moments.
En fait, moi, je trouve que, et là, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu mon côté supporter du PSG qui parle, mais encore une fois, quand on parle de Cavani, on peut pas l'enlever, ça, la réaction des supporters. Mais je trouve qu'il y a un petit côté, alors c'est léger, mais un petit côté trahison sur cette décision qui est pas forcément la plus élégante pour quelqu'un qui a mis en avant son lien avec les supporters en permanence. Moi, ça me pose problème. Et il y a un autre truc quand même, c'est que moi, j'ai l'impression, de la part des joueurs du PSG, que les dirigeants qataris se sont des vaches à lait. On essaie d'avoir un contrat en permanence le plus important possible. Je trouve que tous les joueurs du PSG sont surpayés. Pour moi, ils sont surpayés par rapport à leurs prestations sur le terrain. À partir du moment où ils ne gagnent pas la Ligue des Champions en 7 ans, je pense qu'ils sont surpayés et qu'on les a surpayés pour les faire venir en France, dans un club où ils n'ont pas forcément envie de venir à la base.
Comme
ils sont surpayés, selon moi, il va falloir du temps avant que je leur passe quelque chose.
Il faut dissocier deux choses dans ce cas-là. C'est la relation de Cavani avec la direction, donc le club du Paris Saint-Germain, et la relation de Cavani avec les supporters. Et je trouve que la relation avec les supporters, c'est quelque chose qui te suit indéfiniment jusqu'à la fin de ta vie.
Là, c'était l'occasion de bien finir relation avec les supporters en 2 mois.
Ce qui est sûr, Jean-Louis, je sais pas si c'est sûr, mais moi je le pense. Il y a la moitié des joueurs qui jouent aujourd'hui au Paris Saint-Germain. S'ils partent, ils toucheront jamais le salaire.
Évidemment,
ils touchent au Paris Saint-Germain.
Bien sûr. C'est pour ça qu'ils veulent tous prolonger aussi.
Le seul truc, si je peux me permettre, c'est que...
Vas-y Romain et Mohamed juste après. Vas-y Romain.
Pardon, excusez-moi. Alors je suis d'accord avec tout ce que vous dites et je comprends les arguments. Je pense qu'aussi, encore une fois, je reparle de passion, mais je pense qu'on est passionné du Cavani passé, mais bon, la relation avec les supporters, il n'y en a pas eu cette année. Le gars, il n'a pas joué. Laisse-moi finir.
Bah oui, mais vrai, ça, la relation avec les supporters. Quand le parc fait que chanter Edinson Cavani alors qu'il est remplaçant.
Il n'a pas joué cette année. La réalité, c'est qu'on parle pas
contre Dortmund, il est titulaire au retour en Ligue des Champions.
Mais s'il n'a pas joué, c'est parce qu'il s'est blessé.
Il
n'a pas.
Inexistante.
Mais oui, mais il n'a pas joué parce qu'il s'est blessé. Parce que.
Il y a de la blessure, il n'y a pas de jeu avec Mbappé, lui passe pas la balle.
Oui, non, mais d'accord, mais il te passe pas la balle. Oui, mais il lui passe pas la balle, et t'es sûr que son prochain club ils vont lui passer la balle aussi, enfin on n'en est pas là, enfin le mec il a 33 ans,
oui,
ça fait 7 ans on lui passe pas la balle, ah, bah, vous me passez pas la balle donc vous allez vous faire foutre, je joue pas les 3 derniers matchs.
Non, mais sincèrement, c'est même pas ça, il s'est jamais plaint de ça lui, hein.
Il rentrera pas, c'est ça que j'essaie de dire.
Oui, il sera remplaçant, mais encore une fois il était titulaire contre Dortmund, le dernier match de Ligue des Champions qu'on a vu, le 8ème retour.
Mais plus un pied devant l'autre, mais là il va revenir.
Oui, mais bon.
Enfin, si Icardi se blesse.
Que, ce qui veut dire que la concurrence n'est pas biaisée et que s'il est meilleur qu'Icardi, il jouera. Donc voilà. Et donc Mohamed, tu voulais apporter une précision.
Juste deux précisions. La première, tout d'abord, c'est qu'il gagne très bien sa vie et qu'aucun club ne lui fera une offre de 11 millions d'euros annuels. C'est un salaire assez incroyable. Et deuxièmement, il aurait pu très bien mettre dans son contrat une sorte d'assurance s'il a une blessure, s'il y a un problème. Et l'Atlético de Madrid ou Manchester United lui auraient donné la même prime à la signature quasiment pour s'engager à la fin du mois d'août ou début septembre. Il aurait repris très tranquillement avec eux et ces clubs-là comprennent. Et on rappellera aussi que l'Atlético de Madrid, où il y a une tendance qui se dégage parce qu'il y a un intérêt réel pour lui, l'Atlético Madrid est toujours en Champions League. Voilà, ça c'est important de le souligner quand même.
Très bien. Romain, merci beaucoup en tout cas d'être venu développer ton avis. Merci, à bientôt. Oui.
Salut Romain. S'il signe à l'Atlético, il a le droit de jouer à l'Atlético?
Non, non, il a pas les champions.
Il a pas le droit.
D'accord, OK.
Voilà. Non, mais c'est-à-dire que on s'est retrouvé avec une situation où le départ de Choupo-Moting était quasiment acté au 30 juin et on a dû le rappeler en urgence et lui dire bah finalement tu restes et on te prolonge de 2 mois ton contrat. Donc il a fait la reprise aujourd'hui avec le PSG.
Oui, sportivement, tu mets vraiment le club en galère aussi pour la Ligue des Champions.
Voilà, c'est ça, sportivement.
Est-ce que c'est vrai Mohamed que le PSG envisage de prolonger Kurzawa? J'ai cru tomber de ma chaise quand j'ai
dit ça. Alors explique-nous ça.
Il y a une réflexion.
4 ans, moi j'ai vu.
Il y a une réflexion qui est menée actuellement pour déjà qu'il prolonge pour les 2 mois de Champions League et pour disputer la fin de la Champions League. Sauf que depuis quelques mois, il a un bon comportement. Thomas Tuchel aime bien son comportement dans le vestiaire. Il est plutôt apprécié. Et, bon, et moi, je te dis ça. Je te donne les infos. Et donc, il y a une réflexion qui est menée en gros afin de le voir prolonger et pourquoi pas le vendre dans un an ou deux à un bon prix et surtout récupérer un petit peu d'argent et ne pas le laisser partir libre. Voilà. Il y a aussi une réflexion un petit peu économique derrière tout ça et pas uniquement
sportive. Le gamin, j'ai entendu lire des trucs, il veut doubler son salaire, enfin il le prolonge pas en lui filant 3 cacahuètes non plus.
T'as raison, il veut une belle augmentation.
Enfin, s'il prolonge Kurzawa avec une belle augmente, c'est quand même.
Ah non, mais c'est fou.
Ce serait dingue quand même.
C'est fou. Il est arrivé de. Alors attention, c'est juste les éléments que je vous donne, parce que je vais me faire tuer par.
On rigole pas contre toi, on rigole contre l'histoire.
Si tu veux, du gars, il est arrivé de Monaco, il avait pas les salaires astronomiques que les joueurs peuvent avoir quand ils viennent de l'étranger. Ils réfléchissent à le conserver parce que Bernat, ça va plutôt bien et que c'est une très belle surprise et que lui ne dit rien en tant que doublure de Bernat, ça lui pose pas de soucis. En tout cas, ça a pas l'air de lui poser de soucis. Et donc là ils sont, la situation du Covid a quand même entraîné des problématiques assez importantes sur le marché des transferts. Voilà, boucler du Kurzawa pour le mettre derrière Bernat sans qu'il fasse de soucis, pour eux c'est intéressant. Il y a une réflexion.
Prolonger Kurzawa de 4 ans en lui doublant son salaire, alors ça c'est la plus grosse surprise que j'ai jamais entendue depuis que je suis dans ma vie dans le football.
Vu ta proximité avec le PSG, est-ce que tu penses que le départ de Meunier conjugué à celui de Thiago Silva avec aussi celui de Kwasi, est-ce que tu penses que ça n'a pas joué en sa faveur dans cette renégociation
de Kurzawa?
Ouais.
Non, mais en fait, Kurzawa, c'est surtout se dire on ne le laisse pas partir libre.
Si Kurzawa partait,
il n'y avait pas de souci. Et d'ailleurs, Dugas, il ne prolongera pas avec un salaire doublé, ne t'inquiète pas. S'il prolonge, ça ne sera pas très loin de son salaire. Parce qu'aujourd'hui aussi, Kurzawa, il n'a pas la même cote que le Kurzawa de l'AS Monaco et qu'il n'a plus tous les grands clubs européens qui s'arrachent Kurzawa. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, quoi.
Oui, on peut l'imaginer. Merci Mohamed pour toutes ces infos.
Merci, je suis rassuré. Merci Mohamed.
J'espère bien, j'aime te rassurer du gars.
Merci Mohamed, merci.
Dans un instant, Olivier Giroud continue-t-il de vous étonner par ses buts? Julien Laurent sera avec nous. À tout de suite dans Team Dugas.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h31, Team Dugas, continue avec Emmanuel Petit, avec Jean-Louis Tour. Nous allons continuer à parler de Olivier Giroud qui est en pleine forme du côté de Chelsea.
Exactement, et puis il y aura le journal moyen à 18h45 avec Adrien Aiguin. Salut Adrien.
Salut les amis. Bonsoir, vous allez parler de Chelsea, on sera nous dans le vestiaire d'Arsenal.
Oulala.
On voyage dans Londres.
Ça va être sympa.
Les coulisses du vestiaire d'Arsenal, non mais c'est sympa.
Ouais, vous mettez maintenant qu'à l'époque, avec, dans le vestiaire de Manu, avec Manu, parce qu'à l'époque.
Non, mais là, à l'heure actuelle.
je sais pas si tu ressortais du vestiaire. Hein.
Apparemment, le vestiaire vit bien. Je sais pas si ça se dit.
Ah ouais, c'était après le match de Brighton ou.
Avant Manu.
D'accord.
C'était avant.
C'est l'histoire avec Guendouzi, non?
Non, il y a plein d'histoires, Jean-Louis, tu verras. D'accord. On va te raconter ça.
Très bien.
Et puis, le kiki de Dugas est de retour.
Ah.
Il nous a manqué.
Très important.
Oui, ça faisait longtemps.
Le kiki préféré de Dugas.
Parfait, ouais, merci. Profitez-en,
il n'y en a plus que pour 3 semaines, hein, du kiki. Attention.
Vous avez vu l'histoire avec Guendouzi, Manu?
Ah oui, j'ai vu en direct, ouais.
Tu suis la première ligne pour RMC Sport 1. Ah, Dugas, t'as pas suivi?
Non.
On peut prendre 2 minutes. Bah, avec Julien Laurence, en plus, qui est là, notre correspondant en Angleterre. Salut, Julien.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
Bonsoir Julien. On peut raconter ça quand même. Donc, en gros, ça s'est chauffé entre Guendouzi et Neil Mopé, tu sais, l'ancien joueur de Nice, qui est désormais à Brighton.
À la fin du match.
À la fin du match, d'ailleurs. Julien, tu peux nous raconter?
C'est ça, effectivement. Pendant quasiment toute la rencontre, en première période, il y a eu un incident entre Mopé et Bernd Leno. À un moment, le ballon arrive, Mopé va pour jouer le ballon. Leno récupère le ballon, il retombe mal, il se pète le genou. Donc ça a porté déjà un petit peu je pense d'énervement côté Arsenal. Et puis en seconde période, c'est vrai qu'on pouvait voir à la télévision beaucoup d'échanges verbaux entre Mopé et Guendouzi. Je pense que tous les deux ils se sont un petit peu chauffés. Et puis Mopé finit par mettre le but vainqueur dans les dernières secondes. Sur sa célébration, on le voit interpeller de loin Guendouzi en criant à Guendouzi. Guendouzi perd un petit peu ses nerfs, à un moment l'attrape par le cou, le fait un petit peu tomber. Donc voilà, une bonne embrouille franco-française sur un terrain de première ligue samedi après.
Il a été expulsé, Guendouzi?
Donc l'arbitre ne l'a pas vu, la VAR l'a vu, a décidé de rien faire. L'arbitre ne l'a pas mis dans son rapport et avec un petit peu de réussite quand même, Matteo Guendouzi ne sera pas suspendu alors que
il a de la chance.
En tout cas, il a un peu de chance, effectivement. On n'aurait rien dit s'il y avait eu une suspension.
Mais ils n'ont pas voulu tirer sur l'ambulance, je crois.
Ouais. Julien, tu peux nous rappeler, s'il te plaît, ce qu'a dit Mopé à la fin du match?
Ah oui, je l'ai sous les yeux, si tu veux, Julien.
Oui, enfin, je la connaissais, la déclaration, mais effectivement, elle est très importante aussi. Vas-y. Non, il a juste dit, il faut que les joueurs d'Arsenal apprennent l'humilité, soient plus humbles. Notamment un joueur, il n'a pas nommé Matteo Guendouzi, mais tout le monde savait très bien de qui il parlait de toute façon, donc il a été plutôt intelligent sur ce coup-là. Mais effectivement, l'Arsenal qui menait 1-0 et qui a pris deux buts lors des 15 dernières minutes pour encore une fois s'incliner en premier.
Avec un but de Mopé dans les arrêts de jeu.
Il dit même en détail, Mopé.
Un Français, je veux pas me griller avec la France, il a dit.
Il dit, on veut des joueurs confiants et parfois un peu arrogants sur le terrain, mais il n'est pas assez bon pour parler et critiquer les autres.
Il y en a qui parlent trop sur le terrain.
Voilà, exactement. Bon, voilà.
Ben voilà,
ça se chauffe. Alors Olivier Giroud, lui,
deux gros caractères qui se chauffent, voilà.
Alors donc Giroud, lui, il se chauffe sur le terrain en marquant de nouveau. Donc il a marqué pour la reprise de Chelsea. Donc victoire 2-1 sur le terrain d'Aston Villa. Il offre la victoire avec son troisième but sur les quatre derniers matchs de Chelsea. Au moment où Timo Werner va arriver de Leipzig, au moment où on lui promet encore moins de temps de jeu à Chelsea, eh bien déjà il est titulaire. En plus il marque. Alors Giroud continue-t-il de vous étonner? 32-16 pour en débattre. Julien, ça a dû étonner même en Angleterre, non, de le voir titulaire et marqué?
On se posait la question justement si Lampard allait le choisir lui ou plutôt Tammy Abraham qui est revenu à 100%, puisque quand Olivier avait eu sa chance juste avant que la saison s'arrête à cause de la pandémie, c'était aussi parce qu'il avait profité de la blessure de Tammy Abraham pour donc redevenir titulaire, remarquer aussi, s'imposer, reprendre cette place de titulaire. Mais là, on n'était pas vraiment sûr et Lampard lui a fait confiance en le titularisant donc effectivement dimanche à Aston Villa. Et ça lui a bien réussi puisqu'il a marqué, Tammy Abraham l'a remplacé en fin de match. Effectivement, c'est une énorme preuve de confiance de la part de Lampard qui a fait beaucoup de bien à Olivier. Et deux, ça montre aussi avec sa performance, même s'il n'a pas non plus été fantastique pendant toute la rencontre, mais il a été là au bon moment où il marque le but décisif sur un bel enchaînement, même si la frappe est un peu déviée. Mais c'est vrai que ce but-là va aussi faire beaucoup de bien à Chelsea parce que avec ce qui s'était passé autour d'eux dans les autres équipes ce week-end, c'était très important pour eux de gagner.
Ah, c'est un très joli but en plus. Il a vraiment marqué un très joli but. Non, mais après, moi, j'entends à droite à gauche dire faut-il être inquiet pour Olivier Giroud. J'ai envie de dire faut être inquiet pour Werner qui va débarquer parce que le Giroud, il est toujours là. Et puis il est sur ton épaule, quoi. Tu sais qu'à tout moment, il est là, il frappe à la gueule, il peut rentrer à tout moment, il va mettre tout son mental dans le match, dans le combat. Et puis il lâchera pas, quoi. Ce garçon, il est né pour pas lâcher. Il lâchera pas et puis bravo quoi, félicitations une nouvelle fois à lui. On le voit jamais arriver et puis écoute, il est toujours là, c'est chapeau, mais je crois que ce soit Abraham ou Werner doivent s'imprégner aussi de ce garçon là dans son investissement, dans son mental, dans sa capacité à être performant dans les moments clés. Ça veut dire que carrière d'une saison, et là il est fort quoi, il sait faire, bravo.
Si on amène ça également sur le terrain de l'équipe de France, ça veut dire que tant qu'il est bon, tant qu'il marque, on continue avec lui.
Mais Il n'y a pas de surprise avec, c'est pour reprendre ta question. Ouais. Il n'y a aucune surprise avec ce que fait.
Il t'étonne plus, en fait.
Non, il m'étonne plus. Moi, ça fait des années. Je veux dire, il joue avec ses qualités. Il s'est jamais pris pour un autre sur le terrain. Et c'est à cause de ça qu'il a été pris à partie souvent par une partie du public de l'équipe de France et aussi d'une partie du public d'Arsenal et maintenant de Chelsea. Mais il a réussi à convaincre tout le monde, à mettre tout le monde de son côté, de par son abnégation, mais surtout sa force mentale. Le gars ne se la pète pas sur le terrain. Il ferme sa bouche. Il joue avec ses qualités, il donne le meilleur de lui-même chaque fois sur le terrain et à chaque fois ça va dans sa faveur parce que il est honnête, tout simplement. Donc moi, quand tu reprends la question, est-ce que tu es surpris ? Je suis absolument pas surpris. C'est les gens qui doivent être surpris qui me surprennent à l'heure actuelle, quoi. C'est ça, c'est pour prendre la surprise.
Non mais ce qui est assez
aussi,
quand même.
Et aussi, tu sais,
vas-y, Julien, vas-y.
Non, juste rapidement, sur le match d'hier, les deux défenseurs centraux d'Aston Villa, Tyrone Mings, il fait 1m95, et Courtney Hose, il fait 1m90.
Il a bouffé.
Werner, il est super talentueux, il n'y a pas de problème. Les deux centraux, ils ont joué dans leur surface tout le match. Tellement ils jouaient bas, Aston Villa, ils ont joué dans leur surface tout le match. Bon courage pour Timo Werner dans ce genre de match-là, à l'extérieur. En plus, quand il y aura des supporters la saison prochaine, pour trouver des espaces, essayer de faire la différence quand tu as deux molosses sur ton dos pendant 90 minutes qui vont te mettre des coups, qui vont te rentrer dedans, etc., et que tu n'auras pas d'espace pour courir, utiliser ta vitesse. C'est là où Olivier, il est utile. C'est pour ça que Lampard, à un moment, il se dit bon. D'accord, Tammy Abraham, il a beaucoup de talent. Timo Werner, il aura beaucoup de talent. Mais dans un match comme ça, tu mets Giroud, il va aller au mastic, il va gagner les duels, il va te servir de point d'ancrage, il va être très utile dos au but, et puis il va pouvoir marquer un but comme ça. Mais quand tu joues contre des mecs qui font un 95, un 90, c'est beaucoup plus facile d'avoir Giroud devant que n'importe qui d'autre.
Mais ce qui est très fort sur Olivier Giroud, c'est qu'il a réussi à. C'est un profil particulier de joueur. Il a réussi à faire accepter aux gens que c'était son profil. Et qu'il ne ferait pas autre chose. Et elle est là, la force. Grâce à son caractère, il a insisté, il a démontré à chaque fois. C'est-à-dire que Olivier Giroud, on ne le juge plus. Et c'est pour ça qu'il y a même plus de débat aujourd'hui avec Benzema, même si quand on voit encore Benzema qui a marqué aussi lui hier, il y a même plus de débat. C'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre les gens qu'il avait une façon de jouer au foot. C'était la sienne. Il ne fait pas ce qu'il sait faire, comme disait Manu. Et ça, c'est une force énorme quand tu es joueur de foot professionnel. Tu ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. Et il a convaincu tout le monde avec ce registre-là de joueur. Donc Manu a totalement raison. On est plus étonné.
C'est pas du romantisme sur le terrain, mais c'est efficace. Et moi, je vais simplement dire une chose.
Oui.
Quand t'approches des 100 sélections pour un pays comme la France en termes de football, c'est que, voilà, ça parle de lui-même.
Bien sûr.
Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus.
Oui, après, ce qui va contre lui, c'est ses situations en club où il n'est pas non plus titulaire indiscutable. Il va mettre ses buts, il va jouer quand même, mais. On sent bien que dans l'esprit des coachs de club, il n'est pas titulaire.
Oui, mais dans la tête de Lampard, il a récupéré tellement de points dans la tête de Lampard avant la pandémie. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça, Julien, tu disais, Timo Werner, sur des matchs comme ça, il va galérer. Mais qui te dit que Timo Werner va jouer à la pointe de l'attaque ? Moi, je suis persuadé qu'il peut jouer sur un côté.
Ah, ça, je peux dire qu'il jouera pas.
Avec Ziyech, de l'autre côté, Timo Werner de l'autre côté, ça peut faire un trio d'attaque percutant.
Mais Jean-Louis, tu disais ce qu'il y a contre lui. Il n'y a plus rien contre lui. Aujourd'hui, Olivier Giroud, tu peut ne pas aimer, mais même ceux qui n'aiment pas le profil du joueur, tu n'aimes pas ce profil de joueur. Mais tu ne peux aujourd'hui, personne peut dire qu'il n'aime pas Olivier Giroud.
Moi, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a quand même des entraîneurs de club qui ne le considèrent pas comme le choix numéro 1 qu'on mettra sur tous les gros matchs, les matchs de Ligue des Champions, etc.
Parce que c'est un profil
le foot a évolué aussi.
Particulier, exactement, parce que l'entraîneur veut mettre un certain style de jeu en place et se dit que c'est pas le profil d'Olivier Giroud, mais dans ce profil là, il fait l'unanimité.
Oui, c'est pour ça sans doute qu'il fera l'Euro dans un an.
Bien sûr, parce que ce profil intéresse Deschamps dans sa façon de jouer et donc il est parfait dans ce profil. Ouais.
Merci Julien, bonne soirée Julien Laurence.
Salut.
Merci
Julien.
À vous. Juste pour finir rapidement, le prochain match jeudi soir contre Manchester City.
Oh
Chelsea
là là.
Manchester City en direct sur RMC Sport. Donc encore un gros test pour Olivier.
C'est
pour
beau
les
ça. Ça c'est beau. Ouais. Et prochain match de City, c'est ce soir 21h face à Burnley. Donc merci Julien Laurence. D'ailleurs en parlant de foot Julien. Européen, sachez qu'à partir de 20h, retour du RMC Football Show sur RMC, spécial foot européen donc avec le match de Manchester City, avec également l'Espagne avec la 31e journée qui débute ce soir avec
Villarreal Séville.
Exactement à 19h30, ce sera dans Team Dugas le coup d'envoi. Et puis 27e journée en Italie également ce soir, le Milan à Lecce et la Juve qui joue à Bologne. Tous ces matchs-là seront évoqués dans le RMC Football Show. On revient dans une seconde avec le journal moyen. À tout de suite. Alors, quelques messages sur le hashtag RMC Live, sur Twitter, sur nos différents débats et surtout sur le PSG. Vous avez raison, nous dit Glem. Une direction qui propose 4 ans à Kurzawa, ça doit être respecté, avec plein de smileys, parce qu'effectivement, c'est la décision qu'on avait du mal à comprendre. Giroud, c'est le Cavani français, nous dit Patrick. Comme lui, il avale des couleuvres, ne dit rien et fait le boulot quand il rentre. Voilà. Ouais. Alexandre, d'immense respect pour Giroud. Il prouve encore qu'il a entièrement sa place sur le terrain en sélection également. Et puis sur Cavani, on nous dit Cavani, il veut juste pas flinguer son dernier contrat pour 90 minutes de Ligue des Champions. Il connaît très bien l'équipe et il sait que le PSG n'ira pas au bout.
Bon, ça c'est bien. Le risque de blessure, il est inhérent à ta profession en permanence, quoi.
Si tu veux pas faire un quart de Ligue des Champions,
le PSG n'ira pas au bout. Personne peut dire que le PSG n'ira pas au bout.
Et si tu veux pas faire un quart de Ligue des Champions parce que t'as peur de te blesser pour l'avenir, c'est compliqué.
Je pas au foot, bah oui.
Je n'osais pas le dire.
Va à la pêche.
Bah voilà, oui. À la pêche.
Ouais. Bah, il y est allé.
RMC, 18h20.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez, 18h47, les amis, Tim Dugas continue avec Emmanuel Petit, avec Jean-Louis Tour. C'est le moment du journal moyen. À partir de 19h, par contre, nous allons revenir sur l'Euro 96, avec deux stars de l'époque, bien sûr, Michael Mada et Eric Dimeco.
Exactement, le journal moyen.
À la une du journal moyen de Tim Dugas aujourd'hui sur RMC, une nouvelle série qui cartonne, Plus belle la vie à la Juve. Et vraiment là, c'est un joli feuilleton, la Juventus, tu vois. On sera dans le vestiaire d'Arsenal, inside, comme disent les journalistes sportifs comme Jean-Louis Tour. Et puis ton Kiki sera peut-être de retour, du gars. En tout cas, c'était sa rentrée aujourd'hui. Voilà, j'espère que t'es content pour lui.
Il en avait besoin de prendre
une mini rentrée. C'est une première prise de contact avec l'Arfé, puis après derrière, espère que voilà. Ouais. C'est le, et après il y a la Ligue des Champions, c'est ça. Ouais. C'est le 341e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
Avant l'actu, avant Arsenal, c'était quand même l'anniversaire de Michel Platini hier. 65 ans, Michel Platini a 65 ans, le grand
bon
Michel
anniversaire.
Platini.
Bon anniversaire.
Joyeux anniversaire Michel. Je l'imagine en famille en train de fêter ça. Juste avant le dessert, il reçoit un petit cadeau, un polo pour aller jouer au golf.
Des chocolats. Voilà.
Et le petit discours devant ses enfants, sa famille. Il est ému forcément. Merci Michel.
Je tenais toutefois à dire que la FIFA, je suis un peu ému. J'espère. Au cours de ce troisième mandat, je ne sais pas ce qui se passe.
Oui, c'est l'émotion, c'est l'anniversaire, c'est
65 ans. Hein. Merci, Michel. Quel anniversaire, putain, j'ai hâte que tu me souhaites le mien.
Oui, il est gentil. Hein. Michel, un dernier mot pour Dugas.
Bon, allez, cassez-vous là. Je dois coacher, moi.
Voilà, une info, Michel redevient entraîneur. Sans transition, direction. Ah, on est chez Manu là.
C'est quoi?
Arsenal.
Ah bon?
Je ne suis pas assez
jamais entendu.
Une des chansons d'Arsenal. Interview sympa pour Téléfoot d'un joueur d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Pour mieux connaître le vestiaire d'Arsenal, c'est toujours sympa cette petite interview. Première question, quel est le joueur le plus drôle à Arsenal? On écoute.
La casette.
Ah bon?
Ah bon?
Pourquoi? Parce qu'il est con.
Voilà.
C'est l'humour, hein, attention.
Aubameyang, je me suis fait l'interview sur 5 minutes. C'est un numéro, Pierre-Emerick Aubameyang. La casette est donc le plus drôle. C'est pas l'image qu'on a de lui forcément quand on le voit évoluer de l'extérieur. Alors attention, là vous allez répondre avant Aubameyang. Intéressant, on parle de foot. Quel est le joueur le plus technique de l'effectif d'Arsenal en ce moment? Alors selon vous, Manu, Dugas, Jean-Louis?
Chacun. Le joueur le plus technique?
Ouais, plus technique. Le plus impressionnant techniquement, alors il va parler d'entraînement et des matchs.
Willock.
Ozil.
Ozil selon Jean-Louis Tour.
Willock.
Ok Manu, Dugas.
Non mais aucun, ils sont.
Aucun, ils sont tous nuls. Alors, écoutez, alors là, ce qui est rigolo, c'est que Aubameyang n'hésite absolument pas une seule seconde. La réponse, le joueur le plus technique.
Ah Pépé. Il n'y a pas besoin de justifier, c'est lui.
Pépé, Nicolas Pépé.
Ouais.
Du bloc fou.
Il a marqué un bon but.
J'ai vu quelques matchs déjà de Lille, mais. Mais oui, après, quand tu le vois, c'est vraiment un joueur de la street, comme on dit.
Un joueur de la street.
Mais c'est trop plaisant à voir. Il aime trop ça. Ouais. C'est trop marrant.
Ouais, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que tu vois, j'avais pas pensé à lui du tout. Je me rappelais même plus qu'il joue à Arsenal, pour te dire.
T'es étonné qu'il cite pas Chaka?
Ouais, c'est surprenant. Hein.
Ouais, ou Moustafi.
Alors, Manu Dugas, vous regardez beaucoup la première ligue, Jean-Louis, je sais pas. Mais sur la personnalité des joueurs, on lui demande le plus chambreur. Qui vous semble le plus chambreur à Arsenal?
David Luiz. Je suis sûr que c'est lui.
Eh ben écoute, Manu, c'est une énorme surprise. Je pense que Aubameyang chauffe un peu Dugas sur le coup. Le joueur le plus chambreur?
Ozil. Aussi. Oui, ah, il est dur aussi, là, les chambres. Ah bon? Il est très chambreur. Il adore chambrer, surtout quand il gagne les petits matchs à l'entraînement.
Il fait plus que ça, Ozil.
Mais c'est surprenant, on n'a pas cette image de Ozil chambreur.
Quand il gagne les matchs à l'entraînement, et il peut pas gagner des matchs en championnat aussi, ça serait bien, non?
Non, moi j'étais persuadé que c'était David Luiz. Ça a vu en plus le chambrage qu'il a fait encore récemment dans un match.
C'est vrai. Mais... Alors, David Luiz, c'était une question. Alors, je vous la diffuse pas là, mais c'était quel est le joueur le plus travailleur? Il a dit, c'est David Luiz qui travaille le plus, ouais.
Oui, il voulait dire Ozil.
Ah oui.
Non, ouais, c'est curieux. Parfois, la vision des joueurs est différente de
celle
des
chambrés, toi.
Observateurs.
Non, moi je parlais pas beaucoup sur un terrain.
Mais à l'entraînement, t'aurais pu chambrer
en dehors non plus.
Ça m'a jamais dérangé, en plus. Hein. Même quand les joueurs me chambraient sur un terrain,
je m'en
foutais royalement.
Et Manu, il parlait pas, Manu, ni sur le terrain, ni en dehors.
Je m'étais détaqué.
Des tacs, des taqués, voilà. Quelques buts quand même parfois.
Quelques mois.
Sans transition, c'est l'instant Cristiano.
Et qui ose critiquer Cristiano?
Oui, qui ose?
Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde.
Alors, depuis quelques jours, Cristiano fait beaucoup parler alors que lui ne parle pas. Ça, c'est la magie du foot aujourd'hui.
Sa sœur.
Tout commence après la défaite en finale de la Coupe d'Italie face à Naples. Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve, a critiqué Cristiano. Attention, je vais vous lire ce qu'il a dit. C'est vraiment très, très violent. Il dit, comme Dybala et comme Douglas Costa, il a manqué à Ronaldo ce petit zeste de brillance qui lui permettrait d'en faire un peu plus. Mais dans cette période de reprise d'après Covid, c'est normal que cela se produise. La critique de dingue. On n'a jamais critiqué Cristiano comme ça. C'est violent quand même. Du coup, réaction de Elma Aveiro. C'est comme ça aujourd'hui dans le foot. Emma Alvero, vous savez qui c'est?
Sa sœur.
C'est la sœur de Cristiano Ronaldo. Elle écrit une lettre sur Instagram parce qu'elle a été choquée par ce qu'a dit Sarri. Que peux-tu faire de plus? Mon chéri seul ne fait pas de miracle. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça. Elle remet en cause les choix de Sarri. C'est pas la faute de Cristiano. C'est les choix de Sarri. Tête haute, mais tu ne peux pas tout faire, mon roi.
Voilà. C'est sympa pour ses coéquipiers.
Ouais, c'est cool.
Tous les gens qui écrivent des lettres le font avec le piano et la lettre à Élise.
Ah, sinon tu peux pas être inspiré. Moi, quand j'écris une carte postale l'été, j'envoie ma grand-mère. J'ai mis une petite lettre, chère mamie. Tout va bien au Cap d'Agde. Attention, c'est un véritable feuilleton. Hilaria D'Amico décide de réagir. Qui est Hilaria D'Amico?
Tout est vrai. La femme de Sarri.
C'est la compagne de Gianluigi Buffon. Ah, elle est également présentatrice à la télé italienne. Elle répond à une interview pour Radio Uno et elle nous dit: j'appartiens à une ancienne école. Les membres de la famille, les frères et la femme n'utilisent pas les réseaux sociaux car souvent les maris et les frères n'aiment pas cela. Si j'étais footballeur, j'aimerais exprimer mes pensées, mais je n'aimerais pas que Gigi ou ma maman écrivent à ma place. Les membres de la famille n'ont pas à devenir des commentateurs. C'est comme ça le foot en Italie aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut imaginer juste deux secondes France 98.
Ah, c'est génial.
À cette là. Oh, mais il y a Madame Leboeuf dans la presse.
Et puis la cousine de Pires.
Il comprend pas que Laurent Blanc joue.
C'est ça.
La sœur de Laurent Blanc qui répond.
Qui met en cause les choix d'Aimé Jacquet. Non, mais t'imagines.
Madame Dugarry est obligée de dire que son mari n'est pas le pote de Zidane.
Enfin, non, bon, mais c'est fou.
Oui, je peux vous confirmer que parfois ils s'embrouillent, Zizou et Duga. Donc attention, du coup, il n'avait rien dit jusque-là. Cristiano Ronaldo, en personne, a publié un message sur Instagram. Il est debout en tenue d'entraînement. Il lève les pouces, comme s'il était content. Et il écrit, et ça c'est très fort, pour mettre tout le monde d'accord: ne jamais abandonner, toujours focaliser sur la prochaine étape, tous ensemble. Merci Cristiano.
Ouais,
on n'a jamais eu de parole aussi.
Il a centralisé, il a calmé tout le monde.
Même à la Juve, on se permet ce genre de petits messages sur les réseaux sociaux. C'est curieux le foot à ton époque, du Gard 2020.
Bon, Christian. Ouais.
Merci à Adrien.
Merci Adrien. Merci de nous rappeler tout ça. Oui. Merci de nous rappeler le football d'aujourd'hui. Ça fait rêver. Merci.
Évidemment. Merci Manu Petit.
Merci les gars.
Merci Manu.
Bonne soirée.
Salut poulet.
Le foot d'avant, on va continuer d'en parler dans un instant. L'Euro 96 avec Eric Dimeco, avec Mickaël Madar, avec Julien Cazard. À tout de suite dans Team Dugas.
RMC 18h-20h. Team Dugas.